Soyez bénis. Oh, là oui, il y a du son. Tout à l'heure, le frère Gilles testait le micro. Je crois qu'il a bien fonctionné. Comme j'ai pris l'habitude, je passe les salutations des gens de l'étranger. Donc, premièrement, le frère Juan Carlos vous envoie ses salutations. Et aussi le frère Arley et le frère Cinco aussi. Donc, ils demandent des prières pour différents projets qu'ils ont. Et dans le contexte au Nicaragua, ils sont en attente, au Costa Rica aussi, pour les fameux visas. Donc, on va envoyer, tel qu'il nous a été demandé, d'autres lettres pour pouvoir étendre la demande de visa pour le 31 décembre. Donc, il faut continuer à prier pour cet élément-là parce que, vous savez que ce n'est pas évident en ce moment, tout ce qui est passeport, visa et tout ça. Et le Canada ne fait pas exception. Hein. Partout sur la planète, les gens ont recommencé à voyager, les gens ont commencé à visiter des endroits, ainsi de suite. Et ça demande beaucoup de paperasse des gouvernements qui sont débordés en ce moment. Donc, il faut prier pour cela. Amen. Donc, on va se mettre debout juste pour prier pour le temps de la parole. Et après ça, on va rester debout juste pour la lecture du premier passage, si vous permettez. Père Céleste, on est devant toi, Seigneur, reconnaissant premièrement de ta grâce, Seigneur. Sans elle, nous ne serions pas là. Tu as eu pitié de nous, et c'est pour ça que nous sommes devant toi. En cette soirée, Seigneur, que tu avais déjà prévue, permets, Seigneur, que ta parole atteigne exactement les objectifs que tu as pour elle. Que tout ce que tu souhaites faire au travers de ta parole se fasse, Seigneur. Et que rien ne retienne celle-ci. Œuvre dans les cœurs, œuvre dans l'ensemble des gens, Seigneur, qui vont entendre ceci, que ce soit ici sur place, en différé ou actuellement à la maison. Agis, Seigneur, dans les cœurs en ton temps. Et fais en sorte, Seigneur, que même après qu'ils aient entendu, ceci puisse porter du fruit jusque dans l'éternité. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Nous allons prendre dans Philémon, je ne dirai pas à quel chapitre, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, Philémon, on va commencer du verset 1 jusqu'au verset 7. On va avoir pitié de nous, on ne le lira pas jusqu'au 25, d'accord? Donc, Philémon, chapitre 1, verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, on peut provoquer différentes réactions auprès de nos dirigeants. Et c'est normal que dans certaines occasions, on provoque chez eux le besoin de prière pour nous, le besoin de nous conseiller, de nous accompagner. Mais ce n'est pas les seuls sentiments qui doivent émaner d'eux lorsqu'ils pensent en nous. Et c'est important qu'on sache que devant Dieu, ce qu'il présente à notre égard a vraiment une portée. Et c'est important qu'on réalise que, oui, ils sont responsables de nous, devant Dieu, mais ce qu'ils ont comme réaction face à nous, ce qu'ils ont comme ce qu'ils éprouvent comme sentiment en entendant nos noms, en pensant à nous, devant Dieu, quelles sont les prières qu'ils élèvent lorsqu'ils mentionnent notre nom? On oublie que nos pasteurs prient pour nous. Hein? On dit tout le temps, priez pour vos pasteurs, mais aussi priez pour nous. Mais de temps en temps, je suppose que ce n'est pas toujours le même type de prière qu'ils élèvent pour nous. Hein? J'imagine... Et je pense au frère Fontalvo et à la sœur Myriam, quand j'étais un enfant, le type de prière qu'ils ont élevé à mon égard. Ouch! Comme beaucoup de jeunes, j'ai eu parfois de bons moments et parfois de moins bons moments. Et je suppose qu'à certaines occasions, je suis certain, à bien des occasions, quand ils ont prié pour moi, ça a dû être pénible. Et je reconnais aujourd'hui que sans ces prières-là, je ne serais fort probablement pas ici. Mais en même temps, Dieu merci, ça n'a pas été toujours ce type de prière à mon égard. Et je l'espère auprès de nos pasteurs aujourd'hui, ce n'est plus ce type de prière qu'ils élèvent à mon égard. Parce que si j'étais encore exactement au même endroit que j'étais lorsque j'étais enfant, adolescent ou jeune adulte, cela signifierait que en rien je n'ai progressé. Et j'espère que j'ai progressé en quelques éléments. Mais ici, on a vraiment le Paul qui parle et qui écrit à Philémon. Et on va relire le verset 4 au verset 7, si vous permettez. Le verset 4 dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. » C'est agréable d'entendre cela, n'est-ce pas? Je lui demande, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est vraiment agréable ce que Paul dit de Philémon. Je fais mention de toi dans mes prières et je rends continuellement grâce à mon Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de temps en temps que nos pasteurs prient pour nous parce que ça va mal. Hein. Au contraire, ils vont le faire avec joie. Mais si à chaque fois, le seul type de prière qu'ils doivent élever pour nous, c'est pour des besoins et non pour des remerciements, je vais le dire à leur place. Ça doit être pénible des fois. Pas parce que ils n'ont pas d'amour, mais parce qu'à un moment donné, ça devient, comme pour tout être humain, difficile de toujours être dans la position d'aider quelqu'un. Pourtant, Dieu leur demande, et ils vont le faire, et ils ont l'obligation de le faire avec joie. Mais en même temps, ça doit être difficile de temps en temps. Mais si de temps en temps, ils disent, « Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as faite en lui. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie à elle. » Ça devient pas mal plus agréable. Hein? Ce sont des choses qui doivent nous faire penser. Paul le dit de Philémon. Mais il faut faire attention, je ne prendrai pas les versets Ou est-ce que Paul aussi des fois dit des choses de d'autres personnes qui sont pas mal plus dures? Je prends le bon côté aujourd'hui. Mais c'est important de savoir que si il y a un bon côté, il y a peut-être un moins bon côté aussi qui peut nous arriver de provoquer auprès d'eux. Quelles sont les informations qui leur parviennent lorsqu'ils sont là et lorsqu'ils ne sont pas là? Les pasteurs ne sont pas partout, hein? Les dirigeants de jeunesse, d'école du dimanche, ils ne sont pas partout. Quelles sont les informations qui leur proviennent à notre égard? Est-ce que ce sont des paroles tendres? Mon frère, Dieu merci, tel frère et telle sœur étaient là pour me soutenir. Waouh! Si ces gens-là n'avaient pas été là, vous ne savez pas combien j'ai reçu parce qu'ils ont eu des mots tendres, parce qu'ils ont eu des conseils pour moi. Je remercie Dieu pour ces gens-là. C'est aussi des choses qui peuvent leur parvenir à leurs oreilles, n'est-ce pas? Mais si au contraire, ce qui leur parvient, c'est aïe, aïe, aïe. J'ai eu de la misère avec telle personne. C'est pas facile. Ça peut arriver aussi, hein? Si vous saviez le nombre de secrets que nos pasteurs gardent de tous et un chacun, moi ici présent inclus. Je me souviens de pasteurs qui ont pris du temps avec moi, qui ont pris du temps avec moi et mon épouse, qui ont pris du temps avec moi et ma famille, parce qu'on avait besoin. Et ils sont là. Mais j'ose espérer que de temps en temps aussi, lorsqu'ils pensent à mon nom, il y a un mot tendre qui vient dans leur prière à notre égard. Et j'aimerais que tous nous partagions cela, de progresser. Pas que nous soyons parvenus en quoi que ce soit à une perfection. Non. On a encore besoin. Mais de temps en temps, lorsque nos noms sont prononcés, qu'ils puissent être un apaisement pour les autres. Cela doit être agréable, n'est-ce pas? Imaginez-vous recevoir à la maison des gens et qu'ils expriment à quel point telle et telle personne leur ont été un soutien et combien ça a été agréable, leur compagnie, et combien ils ont pu partager avec ces gens-là et tout. Ça devient des moments tendres devant Dieu de partage et tout. Il faut que ça arrive. Il faut dire merci Seigneur pour ces gens-là. Il faut le faire. Paul dit continuellement, je remercie Dieu pour Philémon. Mais des fois, on passe des moments où est-ce que ça peut être long, les besoins qu'on a. Je dis souvent que parfois, c'est en aidant un autre que j'oublie mon propre problème. Quand je suis occupé à aider quelqu'un d'autre, on dirait que mon problème devient plus petit. Quand je dédie de mon temps pour faire du bien, on dirait que toutes les autres choses se calment d'elles-mêmes. Et plus je dédie de mes efforts à faire le bien, moins les autres choses prennent de l'importance. Et plus je sens que ce que je fais a une portée et une efficacité. Ben, c'est ça la prière de Paul pour Philémon. Il dit, je prie que ta participation à la foi soit efficace. Qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, cela ait une portée, que cela ait un impact et que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Ce que l'on fait peut être parfois bien, mais plus ou moins efficace. Et Dieu veut améliorer l'efficacité. C'est une bonne façon de racheter le temps, croyez-moi. Parce qu'au lieu de deux coups, peut-être ça va prendre juste un coup. Au lieu de prendre 5 heures pour quelque chose, si on est efficace, peut-être ça va prendre un peu moins de temps. Ça va prendre peut-être un peu moins de ressources pour arriver à quelque chose. Quelle belle prière de Paul, n'est-ce pas? Je prie, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Pour la cause de qui? Pour la cause de Christ. Mais en effet, parfois, nos actions ne sont pas pour la cause de Christ. Vous savez, pour avoir des dirigeants, il faut accepter qu'ils soient nos dirigeants, n'est-ce pas? Et il y en a qui n'acceptent pas facilement que Dieu mette quelqu'un au-dessus de lui. Ils pensent qu'il devrait être seulement lui et Dieu. Et pourtant, même les pasteurs ont des comptes à rendre. C'est important de reconnaître que certaines personnes sont pour nous des gens qui nous enseignent, qui nous conseillent, qui prient pour nous et auxquels on doit rendre des comptes. Il faut accepter cela aussi. Si on n'accepte pas, c'est facile que l'orgueil prenne toute la place. Pourquoi je dis toute la place? C'est parce que si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais été orgueilleux en quoi que ce soit, je vais avoir de la difficulté à le croire. Mais que cet orgueil-là diminue à un tel point qu'on ne le voit plus, je pense que ce serait bien. Mais premièrement, il faut accepter que Dieu place des gens pour nous conseiller, pour nous guider, et parfois, pour nous demander des choses aussi. Parce que c'est ça, diriger. En tout cas, à l'école, c'est ça que j'ai appris. C'est le métier que je fais, c'est gestionnaire. Et on t'enseigne que lorsque tu es gestionnaire, tu dois apprendre à diriger des gens. Mais on t'apprend aussi que tout dirigeant a un dirigeant. Même le patron de l'entreprise, ouais, il finit tout le temps par avoir quelqu'un à qui il doit rendre des comptes. Posez la question à ceux qui ont été ou qui sont les chefs d'entreprise. Ils vous le diront. Ils ont des créanciers, ils ont des actionnaires, ils ont des employés à qui rendre des comptes. Ils ont... C'est de suite. Même eux. Mais des fois, nous, en tant que chrétiens, des fois, on a de la difficulté avec ça. Et pourtant, personne ici-bas ne peut dire « Je suis né de personne et je n'ai besoin de personne. » N'est-ce pas? on a tous besoin de quelqu'un et on a tous besoin d'apprendre et de suivre de bons conseils. Est-ce qu'on provoque chez ceux qui nous dirigent de la joie et de la consolation? Est-ce qu'ils voient que nos actions portent du fruit? Ou ils se doivent de toujours encadrer les choses parce que ça glisse régulièrement? On est tous humains. On a tous besoin des fois de se faire encadrer. Mais si c'est constant et je ne grandis pas à une certaine maturité à un moment donné où est-ce que je peux faire par moi-même ce qui m'est demandé et je reste un enfant éternel, un adolescent qui ne fait que rouspéter. Parmi nous, des fois, on fait ça. Hein? Je dirais qu'il y a des adolescents de 60 ans. Hein? Ça existe. Il faut absolument que ce que l'on fait provoque auprès de ceux qui sont responsables de nous de la joie et de la consolation. Vous savez, ils ne peuvent pas être partout et toujours être à côté de tous et un chacun. Pendant un certain temps, c'est normal. Mais tout le temps, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui n'a besoin que d'une partie de temps pour apprendre quelque chose, peu importe ce temps, quel qu'il soit, c'est normal. Mais si la leçon a été répétée la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et la leçon ne rentre pas, est-ce que c'est de la faute du professeur? À un moment donné, ça se peut que ce ne soit pas la faute du professeur. Il se peut que l'effort pour l'apprendre ne soit pas là. Et au lieu de celui qui enseigne être content que celui qui est en train d'apprendre progresse, mais ça provoque autre chose. L'inverse de la joie et l'inverse de la consolation. Le commandement qui nous a été laissé de la part de Christ, c'est « aimez-vous les uns les autres », n'est-ce pas? Si on a la difficulté à aimer nos frères et nos sœurs, c'est pas de la faute de Christ. Hein. Je pense que cette leçon-là a été enseignée. On ne peut pas reprocher à Dieu « j'ai pas été enseigné là-dessus, je comprends pas ». C'est, je crois, peut-être même trop simple. Pour dire, cette leçon-là, je ne suis pas capable. Parce que le premier des enseignants, c'est Christ. Hein? Notre premier dirigeant, c'est lui. Et ce commandement vient directement de lui. Je ne peux pas dire à mon pasteur, moi, je n'arriverai jamais à aimer mes frères et sœurs. Ça ne marcherait pas. Hein? C'est certain que nos actions sont teintées de bien des choses de notre part. Mais une des choses que Paul remarque de Philémon, c'est que ses actions sont teintées de charité ou d'amour. Ben, ce sont des synonymes. Hein? De quoi sont teintées nos actions? Quelle est la perception que je donne lorsque j'agis? Est-ce que mes dirigeants remarquent que je le fais en rechignant? Ou est-ce qu'ils remarquent que je le fais vraiment avec amour pour mon prochain? Vous savez, le fait de tranquilliser est quelque chose qui semble simple, hein? Avez-vous déjà essayé de tranquilliser quelqu'un qui est en état de choc? Pas évident à ce moment-là. Avez-vous essayé de tranquilliser un enfant qui a peur? Ça prend du temps. Parfois, tout ce que ça prend, c'est un bon mot et la personne se calme. Mais parfois, ça demande beaucoup plus, hein, pour tranquilliser quelqu'un. Et des fois, certaines blessures prennent du temps à guérir et ça prend du temps pour que cette personne-là se tranquillise. Tout le monde a bien compris que Philémon semble être quelqu'un de généreux, n'est-ce pas? Je pense que dans la lecture de ce qu'on fait, ça semble évident. Par contre, cette générosité-là peut être bien placée ou un peu moins bien. Et Paul, sa prière, c'est « Je prie que tes actions, que ta charité, que ce que tu fais pour tranquilliser les autres soit efficace. » On ne lira pas le reste du chapitre, mais Paul va même plus loin. Il est tellement certain de la qualité des actions de Philémon qu'il va lui demander des choses qui vont même, je dirais presque à l'encontre de ce qui est naturel. Il lui demande que la personne qui lui a causé un tort et qui a été défiant, qui s'est enfui, qui était inutile, qu'il le reprenne et qu'il le reprenne comme étant un frère. Ça va à l'encontre, hein? Mais c'est ça le sentiment que provoque Philémon dans le cœur de Paul. Paul est tellement confiant de lui qu'il lui dit « Je sais que tu vas même faire au-delà. » Non seulement tu tranquillises déjà des gens, mais même celui qui t'a causé du tort, je sais que tu vas être capable de le reprendre, de le tranquilliser et même de le traiter comme un frère. Et il va encore plus loin. Il dit, prépare-moi encore une chambre, parce que j'espère vous être remis. Il n'a pas peur de lui demander des choses. Est-ce que quand nos dirigeants viennent vers nous, ils sont craintifs de nous demander un coup de main ou quelque chose? Pensez-y. Si ça devient difficile pour eux de demander, on a des leçons à apprendre de Philémon. Mais si, au contraire, il se sent à l'aise de dire, « Mon frère, j'aimerais que tu m'aides à prier pour telle chose. J'aimerais que tu fasses telle autre chose. Parce que le peuple en a besoin. Parce que l'Église en a besoin. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je sais que je peux compter sur toi. Ça, c'est des Philémons. Et il faut qu'il y en ait dans une église. Des fois, on se demande comment évaluer, je dirais, ce que l'on fait dans une église. Hein? C'est une des façons. Si le goût que l'on laisse dans la bouche de ceux qui nous dirigent fait en sorte qu'ils présentent des remerciements à Dieu, c'est peut-être une bonne mesure. Sinon, je pense qu'on a besoin de prier et de demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas en nous. Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'au lieu de provoquer chez mon frère, chez ma sœur, le fait d'avoir de la joie et de la consolation quand il parle de moi, c'est autre chose que je provoque. Puis ne pensez pas que en tout temps, on a provoqué de bonnes choses. Hein. Tous et un chacun, on a provoqué des fois, je vous l'ai dit, des prières que on en est gêné aujourd'hui de savoir qu'on a provoqué ces prières-là. Mais l'important, c'est de ne pas rester là. L'important, c'est que Dieu nous transforme à un tel point qu'un jour, nous, au lieu de provoquer ces prières-là, qu'on ait tellement appris la leçon, qu'on ait tellement aimé les autres, que nous, on aide les autres, et que cela se transforme en remerciement devant Dieu à notre égard. Si vous ne savez pas qui aider, on ne va pas le lire, mais allez voir Matthieu 25. Et lisez ce qu'on dit au sujet d'un roi. Et ce roi-là n'est rien d'autre que Dieu dans cet exemple-là. Je vais tout simplement vous rappeler quelques mots de ces versets-là. Lorsque Dieu dit, il sépare en deux. Il dit, vous, ici, d'un côté, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez vêtu. Et il leur demande, mais quand est-ce qu'on a fait ça pour toi, Seigneur? À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça qu'il dit. Et il met les autres de côté. Il dit, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas aidé. Mais quand est-ce qu'on a refusé quelque chose pour toi, Seigneur? À chaque fois que vous l'avez refusé au plus petit, c'est à moi que vous l'avez refusé. Donc on peut tranquilliser. On peut faire l'inverse. Qui fait l'inverse de tranquilliser les brebis? Facile à savoir, hein? Les loups, les lions, les bêtes sauvages qui veulent manger. Ça, c'est l'inverse. J'espère que Dieu ne pense pas à moi comme ça. Et surtout, j'espère que les dirigeants ne prient pas pour que je ne fasse pas du mal aux brebis. Au contraire, qu'ils prient pour que je fasse le bien auprès d'eux. Parce que les bergers doivent protéger, hein. J'espère qu'il ne les protège pas de moi. Comment? Des gens à même une assemblée peuvent ne pas tranquilliser d'autres? Oui. Malheureusement, ça arrive. Mais Philémon, lui, avait compris. Il tranquillisait. Et c'était tellement connu qu'il tranquillisait que même dans les villes au loin, ce message était véhiculé. Et ça venait même à être une joie et une consolation pour l'apôtre Paul qui était dans les chaînes, en prison. Attends. Lui était en prison et il était joyeux et consolé par ce que l'autre faisait à l'autre bout? Oui. Donc même lorsque les gens que Dieu place passent de mauvais moments, ils continuent à prier pour nous. Mais il peut y avoir différents types de prières, même dans ces circonstances-là. Et même là, ça peut être bénéfique lorsqu'il passe de mauvais moments. Dire, Seigneur, merci pour les gens que tu as mis autour de moi. J'espère que cette prière-là est mentionnée de beaucoup d'entre nous. Et j'espère de tous d'entre nous. Philémon, un seul chapitre dans la Bible. Mais c'est toute une leçon pour nous. Une simple lettre envoyée à un individu nous parvient des milliers d'années plus tard, pour nous donner l'exemple de ce qu'il faisait. Vous voyez jusqu'à où la portée peut être en efficacité? Ça va loin, hein? On peut être surpris lorsqu'on obéit à ce que Dieu demande, lorsqu'on fait ce qu'il nous demande, et qu'on accepte aussi les hommes de Dieu qui peuvent aussi nous demander des choses, qui parfois peuvent être difficiles. Mais si on le fait à un tel point, avec amour, que cela provoque de la joie et de la consolation, ça peut avoir une portée éternelle. Que Dieu permette de susciter cela au milieu de nous. Et que nos gestes soient teintés de cette charité-là, de cet amour-là, afin que tous soient bénis. Parce que tous peuvent passer par des moments où est-ce qu'ils ont besoin d'être tranquillisés. Sans exception, nous passons par là. Hein? Ou quelqu'un pourra me dire qu'il n'a jamais eu de difficultés dans sa vie? Moi, je ne peux pas dire ça. À maintes reprises, j'ai eu besoin d'être tranquillisé. Et Dieu a pourvu des gens pour me dire, mon frère, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu as de besoin? Mon frère, Dieu m'a parlé. Voici ce que Dieu m'a donné pour toi. Si vous saviez le nombre de fois que ça m'est arrivé, d'être tranquillisé par d'autres. Je demande à Dieu qu'il me permette aussi de l'être pour d'autres. Et que Dieu suscite vraiment cette approche que Philémon avait dans beaucoup d'entre nous. On va prier. Père céleste, on est devant toi, sachant que nous sommes des êtres imparfaits, rachetés par toi. Accorde-nous, Seigneur, d'écouter ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. Des fois, nos premiers essais d'action, d'amour et de charité sont parfois un peu gauches. Donne-nous, Seigneur, la persévérance de continuer à mettre en pratique cet amour auprès de mon prochain. Donne-nous des cœurs qui s'attendrissent et qui ont compassion des autres. Et si cela peut aussi provoquer de la joie et de la consolation auprès de ceux qui sont responsables de nous, fais-le aussi, Seigneur. Parce qu'aussi passent des moments durs. Je te prie, Seigneur, que tu suscites des Philémons parmi nous. Et qu'il y ait des prières continuellement de remerciement de tous et un chacun ici. Parce que tu as placé des gens qui ont su tranquilliser. Et que tu développes en ceux qui ont été tranquillisés aussi ce désir de vouloir le faire auprès de d'autres. Père, que ceci soit un exemple pour nous. Enseigne-nous, Seigneur, à tranquilliser nos frères et sœurs. Enseigne-nous, Seigneur, à prier pour nos frères et nos sœurs qui ont cela à cœur. Enseigne-nous, Seigneur, à prier pour leur efficacité. Père, on te remercie, Seigneur, parce que tu es le premier exemple d'amour. Parce que réellement, tu nous aimes. Avoir tout sacrifié pour nous. Agis, Seigneur, dans chacun d'entre nous, afin, Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ceci. Et qu'il y ait des portées, Seigneur, de tout ceci jusque dans l'éternité. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Je te demande aussi, Père, que tu nous raccompagnes, Seigneur, dans le retour à la maison. Et que cette parole puisse faire son effet, même pendant cette nuit, pendant qu'on dort. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous. On te remercie, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Bonne soirée à tous.